na mima.
Yeah.
Mama mai muda. Mama jaliana.
Yeah.
Natabaniana,
heya,
manakela, natabaniana,
heya,
manakela, natajaliana,
heya.
Just wanna tell you. 101.5 FM.
Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G. Toute l'équipe du Plantis est ravie de vous proposer une nouvelle émission qui portera sur une plante emblématique des prairies inondables et ses d'actualités et qui illumine de ses nappes roses nos paysages en avril. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et j'ai le plaisir de vous accompagner durant la prochaine demi-heure pour partir à la rencontre de la cardamine des prés. Car, comme tous les vendredis, pair à 13h, le tiers-lieu Le Plantis vous invite à partir en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Pour m'accompagner dans cette émission, nous écouterons la chronique « Jardiner avec les plantes sauvages » dans laquelle Arcandia nous invitera à partir à la rencontre des plantes sauvages. La chronique « Nos voisins sauvages » animée par Noël, dans laquelle il sera question de martre et de fouine. Puis, Karine nous proposera sa chronique « Le bonheur est dans les simples » pour parler de la cardamine et de ses propriétés. Un programme riche que nous allons découvrir maintenant. Restez bien à l'écoute sur Radio G 101.5 FM. Le fait que nous partagions beaucoup de nos gènes avec le végétal questionne sur les barrières érigées entre nous et les autres espèces, y compris végétales. La poésie est un moyen enchanteur de nous interroger sur la place que nous occupons sans partage, sur l'empreinte que nous laissons par nos actes de tous les jours les plus anodins, comme celui de cueillir une fleur. Nous débuterons donc en poésie cette émission sur la cardamine grâce à cet extrait du dernier ouvrage écrit par la poétesse contemporaine Camille Loivier et intitulé « Cardamine ». Il n'est plus rien resté des cardamines coupées à blanc, nues. Quelqu'un ne les a pas vues, pas retenues par quelque chose, qui, du fond lointain de lui-même, serait remonté. Je vois pourtant son visage, sous la casquette à longue visière. Les rescapés ont fané, immédiatement dans le vase. Elle dégage, en fanant, une odeur un peu écœurante. Leur nom est relié à ces fleurs mauves qui meurent aussitôt coupées dans l'eau mauve. « une jolie plante herbacée dont la floraison mauve illumine au printemps les prairies humides, les fossés, les bords de rivières. Leur puissant système racinaire, composé d'un réseau dense de surface, de rhizomes noduleux, stabilise les berges et les sols. Cette belle vivace fait partie de la famille des brassicacées, regroupant de nombreuses plantes cultivées apparentées au chou, qui est du genre brassica, qui a donné son nom à la famille, ainsi que les navets, le colza, la moutarde, dont la saveur reconnaissable trouve son origine dans les composés soufrés qu'elles contiennent et qui donnent un goût particulier et caractéristique aux préparations culinaires. Cependant, l'ancien nom de cette famille, les crucifères, illustre beaucoup mieux, à mon sens, la morphologie de ces plantes, puisqu'il fait le lien avec leurs fleurs aux quatre pétales positionnés en croix. La cardamine a de nombreuses cousines, comme la minuscule cardamine hirsute, qui affectionne les jardins fraîchement retournés, les pieds d'arbustes et de murs, la cardamine amère, la cardamine des bois, qui ont toutes des fleurs blanches. Lorsque nous réduisons une plante à son nom de genre, nous passons à côté de la richesse et de la diversité des espèces. Cette dernière illustre la capacité toujours renouvelée de la puissance créatrice naturelle à créer sans cesse des variants génétiques en fonction des conditions écologiques rencontrées. Voici donc une occasion toute trouvée pour laisser la parole à Arcandia dans sa chronique « Jardiner avec les plantes sauvages » pour partir à la rencontre des plantes sauvages.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Dans la chronique précédente, je vous ai raconté comment le sol se colore de l'identité de la roche-mère de laquelle il naît. Aujourd'hui, je vais vous inviter à rencontrer les plantes dites sauvages, autochtones ou indigènes, qui font le lien entre la terre et le ciel, le passé et le futur, le monde minéral et animal. Tout autour du globe où les conditions le permettent, les plantes se sont développées, se sont adaptées à leur territoire et son évolution permanente. Ainsi, dans chacun de nos jardins, dorment les graines des plantes sauvages qui se sont succédées au fil des siècles. Un mètre carré de sol contient en moyenne 5000 à 50 000 graines. Une diversité énorme de plantes se tient prête à germer pour couvrir le moindre centimètre de surface nue. Et là, tout jardinier a déjà vécu cette expérience. C'est le printemps, les beaux jours arrivent et viennent le temps des premiers semis ou des nettoyages de massifs. Nous préparons un joli lit de semences et voilà que quelques jours plus tard, des centaines, voire des milliers de plantules apparaissent. En plus de faire concurrence à nos plantations, elles ont la fâcheuse tendance d'être là où on ne le souhaite pas. Avouons-nous qu'en fait, au jardin, on ne souhaite pas vraiment les voir. Considérées comme moches, envahissantes ou dangereuses, et parfois tout ça à la fois. Nos jardins se parent de plantes au beau feuillage verdoyant toute l'année et aux floraisons hâtives ou tardives qui nous apportent des couleurs en chaque saison. Parmi notre sélection végétale, rares sont les plantes indigènes qui y figurent. Et pourtant, elles ont une beauté toute discrète qui se tient prête à s'offrir au regard attentif. Dans une comparaison culinaire, je dirais qu'elles sont des mets délicats qui réclament toute notre attention pour être découverts, contrairement à la nourriture industrielle remplie d'arômes qui ne vous demande rien pour exploser en bouche. Rodées par des générations d'évolution du territoire, ces plantes peuvent résister à des conditions extrêmes, là où nos cultivars périclitent. Nul ne leur a soufflé que les humains souhaitaient de grosses fleurs et des feuillages verdoyants toute l'année. Elles ont développé des couleurs et des architectures adaptées aux conditions où elles poussent. Leurs fleurs sont souvent petites et leur feuillage est parfaitement optimisé tout en restant discret pour s'éviter les attaques en tout genre. Et pourtant, nombre d'entre elles participeraient volontiers à sublimer nos massifs et les rendre plus vivants tout en apportant au paysage une identité unique. Elles apportent en effet une grande diversité au jardin. La diversité végétale permet une bonne exploration du sol par les différents types de systèmes racinaires, faisant fluctuer la vie à tous les étages. En surface, la végétation vivante protège le sol de l'érosion et des aléas climatiques et le rafraîchit par son évapotranspiration. N'ayant pas évolué seule, les rejoignent tous les vertébrés et invertébrés qui ont besoin d'elle pour survivre. Et c'est là où nos cultivars atteignent à leur tour leurs limites. Nul n'a soufflé aux horticulteurs que les animaux avaient besoin de fruits et de feuilles comestibles, ainsi que des fleurs riches en nectar et facilement accessibles. Au profit de nombreuses pétales multi-étagées, les fleurs de nos cultivars ont perdu leur caractère nourricier pour la faune, pour ne parler que des fleurs. Je ne parle pas ainsi pour condamner ce merveilleux travail de sélection végétale qu'exerce l'homme depuis très longtemps pour la beauté ou l'alimentation. Je souhaite rappeler que la beauté du vivant n'est pas seulement à voir dans la chose que l'on regarde. La beauté est aussi dans le lien puissant qui unit cette chose à tout ce qui compose son milieu. Un lien fragile et invisible au regard pressé ou trop gourmand. Nos cultivars, une fois bien installés et en âge de pouvoir concurrencer ses voisines sauvages, bénéficient de cette biodiversité. Les nombreuses espèces forment des barrières naturelles contre les maladies lorsqu'elles ne dégagent pas directement le remède par leurs racines ou leurs feuilles. Parmi tous les animaux qu'elles attirent, proies et prédateurs se rencontrent et une régularisation naturelle se fait. Si notre notion de l'esthétique et du beau peut être bousculée par l'arrivée des plantes sauvages, nous gagnons sur tous les plans à les accueillir. Dans la prochaine chronique, je vous parlerai des jardins des Arcans qui sont mon terrain de jeu et vous raconterai comment j'accompagne et sublime cette végétation où sauvage et cultivé se côtoient.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
La cardamine des prés s'épanouit dans les sols frais, humides et non inondés. Elle affectionne les prairies de fauche non retournées et les espaces enherbés des jardins, s'ils ne sont pas tendus trop tôt, pour la laisser s'épanouir. Plante indicatrice des sols humides, riches et équilibrés, sans apport chimique, sa présence indique un écosystème en bonne santé, équilibré en eau et vivant. Au printemps, elle déploie un feuillage au vert tendre, rassemblé en rosettes de feuilles divisées et arrondies, puis le long des tiges non ramifiées et dressées qui s'élèvent dans les airs, avec d'autres types de feuilles divisées en une dizaine de folioles allongées. La tige atteint facilement 40 cm, nourrie par le sol enrichi de nutriments et d'eau. Puis, entre mars et juin, les fleurs liliacées, réunies en grappes, s'épanouissent joyeusement et s'agitent sous la brise. Leur cœur jaune discret, parfumé, attire de nombreux butineurs comme les syrphes, de petits coléoptères ou encore des abeilles sauvages et tout particulièrement un papillon de jour, une pierride au nom poétique Aurore, dont la chenille se nourrit exclusivement de cardamine. Vous ne pouvez pas manquer cet élégant lépidoptère aux ailes blanches orné d'un soleil orangé, tel un astre accroché au bout des ailes. Un cycle en pleine symbiose avec le cycle de la plante, puisque la femelle y pond aussi ses œufs et s'y abrite l'hiver. Raison de plus pour accueillir cette jolie plante, car sans cardamine, pas d'aurore à observer pour le plaisir des yeux. Et pourtant, quel joli papillon! Cette floraison de début de printemps est précieuse pour nourrir de nombreux insectes affamés par l'hiver. Puis l'été, les fruits, appelés siliques, éclatent et propulsent les graines tout autour. Cette dissémination explosive favorise le déploiement d'une multitude de petites colonies de cardamine qui se répandent telle une brume mauve. En parlant des relations avec la faune, je vous invite à écouter la chronique « Nos voisins sauvages » en écoutant Noël nous parler de nouvelles espèces animales. Je vous laisse les découvrir.
Bonjour, c'est Noël, cueilleuse de plantes et animatrice nature à la Jaillivon sous le nom de Nature est simple. Alors c'est le troisième épisode de la chronique « Nos voisins sauvages », une chronique qui me tient à cœur, parce qu'elle remet de la lumière et de la vérité sur certains animaux qui habitent tout près de nous. Et aujourd'hui, un petit zoom sur deux animaux, plutôt nocturnes pour être discrets face à l'homme. Ils font partie des carnivores, et de la famille des mustélidés. Vous devinez ? Oui, c'est la martre et la fouine. Elles se ressemblent beaucoup toutes les deux. Elles ont un corps long, minces et longues que touffues. Leur longueur tête-corps, c'est-à-dire sans la queue, va de 36 à 55 cm environ. Elles sont deux fois plus grandes qu'un écureuil à peu près. Car celles-ci, dans leur façon de se mouvoir, pourraient nous faire penser à notre ami écureuil. Elles grimpent et se déplacent agilement dans les arbres ou au sol. Un jour, il m'est arrivé d'en observer une là où je vis, dans les arbres, et au premier coup d'œil, j'ai fait fausse route. Alors, qu'est-ce qui les distingue toutes les deux ? La martre des pins, de son nom complet, a des pattes plus longues et une corpulence plus fine que la fouine. Sa tache sur la gorge est jaunâtre, alors que celle de la fouine est blanchâtre. Les bords des oreilles sont jaunes chez la martre et blancs chez la fouine. C'est leur habitat qui se distingue aussi généralement. La martre va davantage se cantonner aux forêts et ne s'approche que peu des habitations, alors que la fouine va s'adapter à plus d'habitats différents, comme les cultures, le bois, le bocage, les villages. Et au niveau de leur alimentation, elles sont de grandes opportunistes. Elles mangent des rongeurs comme les mulots, les campagnols, les oiseaux et leurs œufs comme ceux des geais, des grives et des chouettes, les fruits sauvages, ainsi que des insectes, des grenouilles, crapauds, champignons et même du miel. Leur statut est également différent aux yeux de la loi. Vous vous souvenez des ésodes dont j'ai parlé dans le précédent numéro, la chronique sur le renard du 12 décembre dernier que vous pouvez retrouver sur Radio G. Les ésodes, ça signifie espèce susceptible d'occasionner des dégâts, autrement dit nuisible. La fouine est considérée comme telle dans le Maine-et-Loire, pas forcément dans d'autres départements. Et la martre a vu son statut changer en mai dernier, elle n'est plus classée ésode, et ça c'est une bonne nouvelle car sa population est en régression. Les deux espèces restent en revanche chassables lors de la période de chasse. Alors certes, la fouine peut s'attaquer aux volailles dans les poulaillers, mais la martre et la fouine sont des alliées précieuses de l'homme. De par leur alimentation, elles régulent les populations de rongeurs potentiellement nuisibles pour l'agriculture. La fouine peut aussi contribuer à limiter les pigeons dans les bâtiments. Elle agit également comme agent sanitaire en éliminant les individus faibles ou malades. Alors pour mieux cohabiter avec elle, il est conseillé par exemple de condamner les accès aux combles à l'aide de grillages solides, de couper les branches d'arbres proches des toitures et de ne pas laisser de nourriture accessible. Et dans les poulaillers, un grillage enterré et recourbé vers l'extérieur, ainsi que la fermeture nocturne, permettra de limiter les intrusions. Voilà, donc chaque être a sa place sur la terre. Tout est lié. Soyons donc vigilants à respecter le vivant. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une autre chronique.
Avant de poursuivre plus avant notre émission et notre découverte de la cardamine des prés et de ses multiples bienfaits, nous vous proposons de faire une courte pause musicale. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le vol des papillons et peut-être de l'aurore, bercé par la voix de Louis Chédid.
La vie c'est comme les papillons, d'abord chenille dans son cocon, et puis un beau jour sortir du coton. Se retrouver en plein soleil, bâiller en déployant ses ailes, et s'envoler. Oh. Les papillons, yeah, yeah, ouais, trois petits tours et puis partir. Hey, yeah, yeah. Car papillon, jamais revenir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, toujours, toujours, toujours. toujours, toujours au choix.
Toujours au choix, toujours au choix, toujours au choix.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir. Les hommes, tout comme les papillons, d'abord pleuraient dans les jupons. Et puis un jour quittaient la maison. Tuilou volait de balcon en jardin, planait de bonheur en chagrin. Tu étais le papa des bébés. Bonobon, bonobon. Papillon du jour, toujours, 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 toujours.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, toujours, 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 toujours au choix.
Toujours au choix, toujours au choix, toujours au choix.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, mouchoir, bonhomme. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir. Mouchoir, oh. Papillon du soir. Très fort, très très fort. Bonsoir.
Dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM. Et nous partons à la découverte de la cardamine des prés. Surnommée Cresson des prés, Cresson élégant, Cresson sauvage, Cressonnette, faux Cresson, la cardamine des prés est une plante comestible à découvrir et utiliser en cuisine, crue ou cuite. Sa saveur poivrée et moutardée rappelle celle du cresson et de la roquette. Toutes les parties de la plante se consomment. Les feuilles en salade, les fleurs en décoration ou en tartine. Les boutons floraux ont un goût plus piquant dont on peut faire de délicieux pestos. Les cardamines agrémentent de nombreuses sauces ou de recettes à base de fromage, ainsi que des recettes de beurre aux herbes. Toutes les parties, effectivement, sont délicieuses, surtout lorsqu'elles sont jeunes et crues. Comme de nombreuses autres plantes sauvages vagabondes, la consommer peut, outre réjouir les papilles, prendre soin de nos organismes. De la même façon que ses cousines crucifères, les composés soufrés au goût de moutarde ont des effets antioxydants. Ses propriétés expectorantes et antitussives sont efficaces contre les bronchites et les trachéites. Légèrement diurétique, la consommation de la cardamine est aussi bénéfique aux personnes anémiées. Intégrée dans un bouillon, elle est active contre le scorbut. Sa richesse en vitamine C, pour information, 100 grammes de plante couvre 3 fois nos apports journaliers, constitue une excellente raison pour les ajouter dans vos salades printanières, en complément des orties et des pissenlits. Une période où les apports en vitamines sont recherchés et où nos corps ont besoin d'être purifiés. Pour nous en dire plus sur cette jolie plante qu'il faut préserver en limitant la cueillette juste au strict nécessaire, écoutons Karine nous parler de ses bienfaits dans sa chronique « Le bonheur est dans les simples ».
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis productrice de plantes médicinales à Chef et aujourd'hui je vais vous parler de la cardamine des prés qui est une petite plante qu'on trouve au printemps parce qu'elle est toute discrète et qu'elle apparaît à ce moment-là dans nos prairies. La cardamine des prés est aussi appelée cardamine pratensis dans son nom latin, mais aussi cressonnette, son nom vernaculaire dans certaines régions. Et c'est bien plus qu'une petite fleur mauve de nos prairies. Elle est utilisée depuis l'Antiquité et elle appartient à la famille des brassicacées. C'est la même famille comme le brocoli et le navet, ce qui lui confère des propriétés médicinales puissantes. La cardamine des prés est une mine de vitamine C et d'énergie, sa vertu principale. C'est son incroyable teneur en vitamine C. Elle a une action antiscorbutique, parce que historiquement on l'utilisait pour combattre des carences graves en vitamine C. C'est un tonifiant naturel, elle est idéale pour lutter contre la fatigue printanière et puis pour booster votre système immunitaire. Elle a un petit goût piquant, c'est parce qu'elle contient des glucosinolates. C'est les mêmes composants qu'on peut retrouver dans la moutarde et qui stimulent l'appétit et qui facilitent la digestion. Elle a par ailleurs des vertus détox et aussi respiratoires parce qu'elle agit comme un véritable purificateur pour le corps. Dans son action dépurative, elle aide les reins à éliminer les toxines et à purifier le sang. Elle est aussi expectorante, ça veut dire qu'elle va pouvoir dégager les voies respiratoires en infusion ou en sirop. Vous pourrez l'appliquer ou la consommer pour n'importe quelles affections respiratoires légères. Elle est utile contre la toux, contre les bronchites, et elle va vous aider à dégager vos voies respiratoires. On lui prête aussi des effets apaisants contre les douleurs articulaires grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. En résumé, la cardamine des prés est une alliée précieuse pour revitaliser l'organisme à la sortie de l'hiver. Que ce soit en salade pour son croquant poivré ou en tisane pour ses bienfaits profonds, c'est une plante sauvage locale à redécouvrir de toute urgence.
La cardamine était autrefois cultivée dans les jardins, à l'instar du cresson. Aujourd'hui encore, elle a toute sa place dans le potager. Pourrait être consommée, mais aussi c'est l'occasion d'explorer sa floraison qui égaye les alignements de légumes et attire de nombreux insectes qui butinent. Des agriculteurs attentifs aux floraisons de leurs prairies témoignent et observent notamment que si les cardamines sont abondantes au printemps, il y aura moins de foin. Une autre version existe et certains indiquent que si elle fleurit avant la poussée de l'herbe, le foin sera moins fourni. D'où l'intérêt de bien observer son milieu, même lorsqu'on est agriculteur. Pour éloigner les enfants imprudents des champs humides et des risques inhérents à ce vagabondage, de nombreuses croyances populaires ont ainsi essaimé dans toute l'Europe pour les en éloigner grâce à cette plante très reconnaissable et très commune dans les prairies. En Allemagne, cueillir un bouquet de cardamine des prés attire la foudre. En Autriche, la cueillette d'une fleur de cardamine entraîne le risque d'être mordue par une vipère. Ou encore en Angleterre, où le ramassage des cardamines provoque des maux de tête. Surprenant, non? Ne vous inquiétez pas, cette plante est tout à fait inoffensive et comestible, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Aussi, avant de nous quitter et pour nous titiller les papilles, je vous propose une délicieuse recette de salade de harengs aux pommes de terre, où vous pouvez utiliser aussi bien toutes sortes de cardamines, celles des prés, mais aussi la cardamine hirsute. Cuire à l'eau 1 kg de pommes de terre et les couper en dés. Vous pouvez aussi les faire sauter, moi je trouve ça meilleur. Mélangez avec 200 g de hareng fumé, coupé en lanière, un oignon rouge émincé et un bol de cardamine hachée entière, avec les fleurs. C'est encore meilleur. Puis, rajoutez une sauce à base de moutarde, yaourt, vinaigre de cidre, huile d'olive et de colza, salé poivré. Bonne dégustation. Cette émission est terminée. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Toutes toute l'équipe du Plantier vous donne rendez-vous pour parler